Locaux présente ses podcasts en ligne.
Thomas Salvador se fait connaître du public en 2015 avec un premier long métrage, Vincent n'a pas d'écailles. Une pépite saluée par la critique, notamment pour son approche du fantastique. Le 1er février 2023 marque l'arrivée en salle de son deuxième film, La Montagne. Le réalisateur est aussi acteur, il incarne dans cette histoire Pierre, un homme qui tombe littéralement amoureux des Alpes. Sa fascination l'amène à quitter son entourage, son travail et à vivre uniquement pour l'exploration d'une montagne. Au passage, il rencontre Léa, chef cuisinière dans un restaurant, incarné par Louise Bourgoin. Pour ce film, Thomas Salvador reste dans le registre d'un fantastique très épuré et livre une histoire sensible et puissamment apaisante. Thomas Salvador, avant de parler du film, j'ai lu que vous faisiez beaucoup d'ateliers avec des enfants, ados, étudiants sur le cinéma.
Oui, moi j'ai commencé le cinéma, donc à 14 ans je voulais être cinéaste. Et après mon bac, j'ai dû travailler, mais rien à voir avec le cinéma. J'ai travaillé sur des chantiers et dans une station-service. Et après, j'ai fait un peu de régie. J'étais stagiaire régie, stagiaire mise en scène. Et je voulais pas être plus que stagiaire parce que je n'aimais pas avoir des responsabilités sur des films qui m'intéressaient pas ou voilà, s'occuper de choisir un hôtel ou un bon restaurant pour l'équipe. Tout ça, ça me paniquait. Bref. Et puis, un jour, on m'a proposé un atelier après mes courts-métrages. Et j'ai adoré. Et c'est vrai que j'ai fait des centaines d'interventions donc pour les dispositifs collège au cinéma, lycéen et apprenti au cinéma. Et beaucoup d'ateliers d'écriture ou de réalisation. Puis maintenant, je fais pas mal d'ateliers aussi dans des grandes écoles. Et j'adore ça. Et c'est vrai que j'ai aussi réalisé que dans tous mes courts-métrages parlent de la transmission. Il y a un peu de ça aussi dans La Montagne. Si on y regarde bien, la question de la transmission. C'était vraiment le sujet de mes courts-métrages, en fait. Et j'adore ça, j'adore expliquer, j'adore qu'on m'explique. J'adore les films dans lesquels il y a des gens qui expliquent des choses. Et surtout, j'apprends beaucoup de choses. Comme je n'ai pas fait d'études, d'un coup, d'avoir à expliquer à d'autres personnes. Je n'ai pas fait d'études et je fais vraiment les choses à l'instinct. Je connais aucune théorie sur le cinéma ni rien. Donc d'avoir à l'expliquer à d'autres personnes et de manière intelligible, ça m'a fait comprendre énormément de choses.
C'est comment un atelier avec vous ?
Moi, j'ai beaucoup d'énergie. J'essaie d'en donner beaucoup, parfois jusqu'à l'épuisement. Même parfois, les gens se trouvent que je suis fou quand je fais des ateliers ou des... j'ai l'impression que que ma vie en dépend. Et après, il faut évidemment... Mais je ne me mets pas en avant quand je fais des ateliers de réalisation. Je pense que j'arrive à donner beaucoup tout en permettant aux étudiants de faire les choses, de faire les choix et quitte à faire des erreurs. Et je trouve que j'ai l'impression que je ne me débrouille pas trop mal à faire ça. C'est pour ça qu'on me le demande beaucoup. Mais est-ce que...
Voilà. Depuis votre premier long métrage, Vincent n'a pas d'écailles, à La Montagne aujourd'hui, il y a un goût véritable pour le fantastique dans votre cinéma. D'où ça vient ?
Ça vient de l'enfance. Et moi, j'ai vu des films, pas mal de films assez tôt, surtout à l'adolescence, mais même enfant. Et en fait, j'avais jamais formulé ce goût pour le fantastique. Mais tardivement, j'ai réalisé que déjà dans mes courts-métrages, il y avait un peu de fantastique. Et que les cinéastes que je citais toujours, c'était Cronenberg, Paul Verhoeven, John Carpenter. Quelqu'un m'a fait remarquer qu'ils faisaient un peu des films fantastiques. Et puis voilà, puis c'est vrai que les projets que j'avais en tête, que ce soit donc Vincent n'a pas d'écailles. Donc je pense que aussi ça vient de du fait que j'aime au cinéma voir des choses que je ne vois pas dans la vraie vie. Donc j'adore des cinéastes aussi réalistes, naturalistes ou psychologiques. Mais en tout cas, ce qui m'excite le plus, c'est vraiment de voir des corps bouger, des choses un peu folles, des cascades, de la danse. Donc c'est peut-être pour ça que je fais ça aussi. Ouais.
Alors, La Montagne, c'est un film que vous avez en tête depuis 20 ans. Au début, c'est même un projet avec votre ami Patrick Béraud, célèbre alpiniste français. Votre ami meurt et le projet évolue au fil du temps pour devenir cette histoire fantastique avec notamment Louise Bourgoin. C'est une longue histoire, ce projet.
Bah, moi, je fais les choses, je ne vais pas dire lentement, mais on va dire à mon rythme. D'autres diront lentement. Et c'est vrai que j'ai fait des courts-métrages qui ont eu pas mal de succès. Et les gens me disaient, mais alors ton premier long, là, il faut arrêter de faire des courts-métrages, tout ça. Mais je n'avais pas d'idée, parce que je sais faire que des choses que je ressens. Je serais incapable de réfléchir à de quoi je pourrais bien faire comme film. Il faut vraiment que ça vienne de je ne sais où pour que j'y croie et que j'ai envie de les faire. Et donc, j'ai eu enfin mon première idée de long-métrage, qui était un film de montagne. Et moi, j'aurais joué un jeune alpiniste, un peu casse-cou, dans un alpinisme un peu spectaculaire, dangereux, qui d'un coup ne veut pas redescendre, enfin disparaît et ne veut pas redescendre. Et Patrick Béraud aurait joué plus ou moins son propre rôle, un alpiniste aîné qui se demande c'est quoi ce mec et qui serait parti à sa recherche. Ça aurait été un film très silencieux, très je sais pas quoi. Et effectivement, il est malheureusement mort quelques semaines avant notre rendez-vous. Et voilà, donc moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre parce que c'était vraiment une figure pour moi. J'ai parlé de la transmission tout à l'heure. Donc voilà, c'était quelqu'un, il était guide. Et après, voilà, puis après, j'ai eu l'idée de Vincent Napadécaille. Et puis après Vincent, j'hésitais entre deux projets. J'ai commencé à écrire un autre film. Et après que j'ai eu mon enfant, je me suis dit, j'ai eu un enfant. En fait, ce n'est pas l'autre film, c'est La Montagne que je dois faire. Et puis les choses sont venues assez naturellement.
La trajectoire de cet homme qui s'isole du reste du monde en haut des Alpes et qui ne vit que pour découvrir cette montagne, c'est très fort. C'est un gros mot de dire que c'est un film existentiel aussi ?
Non, je ne pense pas que ce soit un gros mot. On ne l'avait encore jamais prononcé. Alors, on me dit pas mal initiatique. Mais tout est existentiel, hein, si on y pense bien. Oui, mais moi ça me gêne pas si on a un rapport direct au film et que rétrospectivement on se dit ah c'est en fait un film existentiel. Moi ce que j'essaie de faire c'est que le spectateur soit dans le moment, dans le présent du film avec les personnages, avec qu'il ait froid avec lui, qu'il ait du désir avec lui, qu'il soit vraiment en direct et au premier degré, et qu'après, je dis toujours plus si affinité. Et c'est vrai que ce film, il est, avec toutes les rencontres que je fais, je trouve que c'est génial. Je vois le nombre de choses que les spectateurs voient. Oui, c'est un film existentiel, à mesure où c'est un film qui pose des questions sur la place de l'homme dans ce monde, le rapport à la nature, le rapport à l'autre, la curiosité, la société. À quoi ça rime que de faire comme on le fait depuis toujours, de dissocier l'homme du reste du vivant. Et voilà. Et puis, d'ailleurs, le cinéma fantastique permet de, non pas de répondre, mais de questionner, de titiller ces sujets de manière ludique et visuelle et sonore et sans faire de débat d'idées, quoi.
Tout plaquer, laisser de côté sa famille, son travail et décider de faire ce pas de côté énorme d'une vie qui ressemble à aucune autre, c'est presque punk. C'est quoi pour toi ce personnage justement ?
Bah pareil, j'ai pas trop pensé en ces termes. En tout cas, je trouve ça génial que vous parliez de punk, parce qu'il est tout le contraire. Mais effectivement, sa démarche, et c'est ça que des gens aiment bien dans le film, c'est que c'est très en douceur, et en même temps, c'est complètement délirant ce qu'il fait. Il y a des gens qui m'ont dit, voilà, le film est en douceur, on est vachement avec lui, c'est très progressif. Et à la fin, on se dit, mais c'est quoi ce délire qu'il vient de vivre, quoi ? Et en tout cas, c'est une question qu'on s'est posée à l'écriture. Moi, je savais qu'il ne fallait pas que ce soit un marginal ou un mec en rupture. Que la rupture, elle soit intérieure et qu'il le sache pas lui-même. Et je pense que le film aurait été moins intéressant si c'était un mec en crise, en pétage de câble, qui quitte tout. Et au contraire, il le fait en douceur, presque il s'en excuse. Et je pense que c'est ce... Et dans le début du film, tout a l'air de bien aller, mais avec plein de guillemets. Voilà, il a un métier, il gagne de l'argent, il a une famille, il a des amis, c'est pas un paria. Et je pense d'avoir ancré le personnage comme ça dans une forme de normalité, ça renforce, par contraste, la nécessité de faire ce qu'il fait, de son aventure. Donc c'est un punk qui se voit pas, quoi, qui le sait pas. C'est le punk malgré lui.
Et puis il y a le personnage de Louise Bourgoin, Léa, chef cuisinière, qui, elle aussi, semble être à un moment charnière de sa vie. Elle accepte de faire les courses en ville à ce type qui veut plus descendre de sa montagne. Elle le suit dans son délire. Elle va être très importante à un moment donné du récit. On sait très peu de choses d'elle, mais elle semble être au même endroit que le personnage de Pierre.
Bah c'est complètement ça. C'est vrai que c'est... Je suis content aussi que plein de gens ressentent, se racontent plein de choses avec ce personnage qui dit très peu de choses d'elle, de même que Pierre dit peu de choses, mais qu'on a fait ressentir par la... dans l'écriture son rapport à la montagne. On la découvre de dos, et elle regarde la montagne, puis elle a trouvé... Elle vit quand même dans un lieu qui est unique au monde, quoi. C'est entre ciel et terre. Elle travaille dans un restaurant à 3800 mètres d'altitude. Et moi, j'aime à me dire, voilà, qu'elle a trouvé une forme d'équilibre entre son rapport à la montagne, sa vie avec son fils, son métier. On comprend qu'elle est partie à l'étranger puis qu'elle est revenue. Donc, elle a aussi cette forme d'aimantation. Moi, je me dis aussi qu'elle a de l'avance sur Pierre, qu'elle a peut-être, même des gens pensent qu'elle a vu ce qu'il a vu. Et qu'elle a. Et en tout cas, elle n'en est pas surprise et elle a. Effectivement, ils se croisent, ils se ratent au début, mais ils ont besoin de se rater pour que lui fasse son chemin complet et pour pouvoir faire demi-tour, en fait. Mais oui, c'est un... Et elle est aussi son dernier lien avec, affectif avec les hommes. Et puis, il y a aussi de la magie dans leur histoire d'amour. Parce qu'il y a une dimension fantastique qu'il ne faut pas trop dévoiler, mais dans la manière qu'ils ont de se retrouver ou de se trouver, il y a quelque chose de magique. Et moi, je voulais le film optimiste, parce que le personnage il y a deux doigts de disparaître à jamais. Mais moi, ça, c'était dans une de mes images d'origine, je savais qu'il redescendait. Et il redescend parce qu'il manque à quelqu'un, et ce quelqu'un lui manque, et il faut qu'il se retrouve. Et c'est ce qui lui donne une bonne raison et le courage de redescendre et de se reconfronter à ce monde, mais en étant, voilà, en étant neuf, quoi, en ayant fait peau neuve.
Louise Bourgoin a été un choix dès le départ dans l'écriture du film.
Et en écrivant, voilà, moi je suis vraiment dans l'écriture, dans les personnages. Même, j'oublie même que c'est un peu moi qui joue. Même dans un coin de ma tête, je me dis, ah, ça sera peut-être pas moi. Enfin, en fait, je suis sûr que je vais jouer. Mais... Et quand j'ai eu fini le scénario, ma productrice m'a dit, mais sait-on jamais que les choses aillent vite ? Il faudrait peut-être réfléchir à... Ah, je dis, ah bah oui, t'as une bonne idée. Et puis, je sais pas, je pensais à Louise Bourgoin. et j'en suis ravi parce que je la trouve hyper lumineuse et très concrète, très terrienne, tout en étant mystérieuse. Je la trouve hyper simple et hyper complexe. Et donc, quand on la voit, quand on la croise, parce qu'on, tout de suite, elle apporte un hors-champ, elle apporte une... Enfin, vraiment, je trouve que c'était... Je suis hyper heureux de notre collaboration. Moi, les films que j'aime d'elle... Bah, il y avait le premier, elle a fait La fille de Monaco, mais j'aime beaucoup dans Je suis un soldat, film de Laurent Larivière, dans le film de Nicole Garcia aussi, Un bel été, et dans la série Hippocrate. Et elle est géniale dans la série Hippocrate, et c'est surtout ça où je me suis dit, mais... Elle est là et elle joue pas l'actrice qui sait bien faire les gestes de médecin. On se rend compte même pas qu'elle fait, je sais pas, qu'elle fait un garrot, qu'elle prend l'attention, qu'elle, même quand elle marche dans les couloirs, je me dis mais voilà, elle sait super bien marcher. et j'y croyais à mort qu'elle allait pouvoir très simplement incarner cette chef cuisinière montagnarde simplement quoi.
Vous filmez une montagne sans tourisme, sans la grosse machine économique qui fait de tout lieu un divertissement. Le personnage est seul dans cette montagne.
Parce que bah, la montagne, c'est hyper vaste. Sauf que les gens aiment se retrouver au même endroit. C'est comme des îles sur lesquelles il y a des plages vides et puis il y a des plages où il y a une personne au mètre carré. Et d'ailleurs, au début, on a travaillé sur le son quand il est à Paris, dans le train, dans le téléphérique. À l'Aiguille du Midi, il y a du monde, il y a des touristes, mais lui, il s'en... et puis même là où il... Enfin, mais il s'en éloigne de tout ça. Et en creux, il y a un peu aussi, pas une critique, mais l'Aiguille du Midi, c'est quelque chose de magique et terrible à la fois. C'est du béton, c'est l'homme qui a colonisé un sommet, qui a mis un téléphérique pour gagner de l'argent et faire vivre un grand frisson à distance à 1 million de personnes par an. Donc c'est génial parce que c'est un accès à la montagne merveilleux, mais ça pose plein de questions. Et je pense que dans le film, il n'est pas tout de suite seul dans la montagne. D'ailleurs, on a travaillé à l'écriture ce côté très progressif. Voilà, les gens se prennent en selfie dans le téléphérique. Ils s'installent à un endroit où il y a d'autres alpinistes. Et puis progressivement, ils s'éloignent jusqu'à aller dans le Far West, quoi. Là où personne ne va.